Accent d'Europe, Juliette Rangeval. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade.
Bonjour, après le milliardaire Richard Branson, ça va être au tour de l'ancien patron d'Amazon, Jeff Bezos, de partir faire un court voyage dans l'espace. Un élan de tourisme spatial dans un espace déjà bien encombré, satellites, missions habitées et même station spatiale internationale. Et de plus en plus de débris lancés à pleine vitesse, l'Agence spatiale européenne commence à prendre le problème au sérieux. Elle vient de passer un contrat avec la start-up suisse ClearSpace pour tenter de faire le ménage en orbite. Un premier robot nettoyeur de satellites doit décoller en 2025 à Genève, Jérémy Lange.
Sur les autoroutes, on a des dépanneuses, parce que si on n'avait pas de dépanneuses depuis les années 60, nos autoroutes seraient encombrées de voitures en panne. En orbite, on n'a pas de dépanneuses et ça fait plus de 60 ans qu'on opère.
Dépanner l'autoroute de l'espace, la mission est aussi essentielle qu'elle est à risque. Luc Piguet, le cofondateur de ClearSpace, le sait. 90 000 objets entre 1 et 10 cm circulent en orbite autour de la Terre. 34 000 ont plus de 10 cm. La mission ClearSpace vise elle, les très gros objets.
Aujourd'hui, on a plus de 5000 objets complets ou incontrôlables en orbite. C'est un chiffre qui augmente dans le temps. Et ils peuvent entrer en collision avec d'autres ou ils peuvent exploser, ce qui génère des champs de débris plus petits. Et tous ces objets, ils orbitent à 28 000 km/h et à cette vitesse-là, même un tout petit objet de la taille d'un boulon peut dégager la même énergie en collision qu'une grenade à main.
L'objectif de ClearSpace, c'est Vespa, l'étage supérieur d'une fusée lancée en 2013 et qui erre depuis dans l'espace. Le robot de ClearSpace doit le capturer avec ses bras articulés et l'entraîner dans l'atmosphère pour le détruire.
Ça s'approche d'un robot kamikaze parce que la première mission, on l'a simplifiée au maximum. C'est déjà une mission extrêmement complexe, on doit faire un rendez-vous en orbite avec un objet qui orbite à 28 000 km/h. On doit l'attraper hors de gravité et de friction, ce qui est très difficile à faire aussi. Et puis après, le manœuvrer pour qu'il rentre dans l'atmosphère terrestre, qui est aussi très difficile à faire. Mais l'objectif pour nous, c'est évidemment de produire la dépanneuse réutilisable, c'est-à-dire un robot qui est capable de désorbiter 3, 4, 5, 10 objets de leurs orbites.
Très vite va se poser la question du coût de ce genre de mission. L'Agence spatiale européenne a mis 86 millions d'euros sur la table pour ce premier vol. Mais qui va payer pour nettoyer l'espace et comment? Luc Piguet envisage plusieurs modèles, celui de l'assurance, comme il en existe pour les voitures, ou celui de la taxe sur les billets d'avion.
Quand vous achetez votre billet d'avion, vous payez un prix pour le billet d'avion, plus vous avez un petit delta additionnel pour l'offset de carbone. On linéarise un coût sur la durée et au final, le delta par l'utilisateur final est relativement limité pour permettre en fait qu'une opération, tant que telle, soit durable.
Des questions juridiques se posent également, notamment sur la responsabilité des pays qui envoient les satellites. Mais ClearSpace veut croire qu'il y a là un modèle commercial à en devenir, alors que les opérateurs multiplient les projets de méga-constellations qui regrouperaient plusieurs milliers de satellites.
Are you all gangsters?
No, we are Russians.
Большие города.
Depuis fin juin, l'ancien Premier ministre français François Fillon siège au conseil d'administration d'un groupe pétrolier russe. Ce n'est pas le seul politique européen qui se soit reconverti dans une entreprise russe à un poste très bien payé. L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder est l'exemple le plus connu. Mais s'il y a un pays qui reste sans doute champion en la matière, il s'agit bien de la petite République autrichienne. Explication à Vienne de notre correspondante Céline Béal.
Le nombre d'Autrichiens que l'on retrouve dans des organisations russes est impressionnant. Des ex-ministres, mais aussi trois anciens chanceliers, de gauche comme de droite. Pour comprendre ce phénomène, rencontre avec Anton Cherovtsov dans un café viennois. L'universitaire ukrainien, auteur et fondateur d'une petite ONG nommée Centre pour l'intégrité démocratique, observe de près les connexions russes en Europe. Pour lui, les entreprises russes cherchent des recrues qui augmentent leur prestige, mais elles agissent aussi selon les vœux du Kremlin, qui voit dans ses anciens responsables politiques un avantage tactique.
Les politiques qui ont exercé des fonctions officielles au sein d'un gouvernement gardent toujours de l'influence au sein de leur parti d'origine, ou bien ils ont de l'influence sur certains cercles. Donc en les impliquant, en les invitant à travailler pour des compagnies russes, vous achetez en fait l'influence qu'ils peuvent avoir sur ces groupes politiques. Si vous avez de l'influence sur certains groupes, cela augmente vos chances d'imposer vos intérêts géopolitiques.
Your chances to advance your own geopolitical interests, you know, get higher.
Comment expliquer la place particulière de la petite Autriche dans ce réseau d'influence russe? Vu de Moscou, le pays a l'avantage de faire partie de l'Europe de l'Ouest, mais avec une particularité.
Il s'agit d'un pays neutre qui n'appartient pas à l'OTAN. Cette neutralité est devenue une caractéristique à laquelle tient la société autrichienne. Et les Autrichiens ne considèrent pas que cela soit problématique de travailler pour l'ancien bloc de l'Est, pour l'ancienne Russie soviétique.
La dernière Autrichienne en date, recrutée par le groupe pétrolier russe Rosneft, est Karin Kneissl. C'est une auteure qui avait été bombardée ministre par le parti d'extrême droite FPE en 2017. L'expert Anton Cherovsov admet que cette nomination-là l'a surpris. Car Karin Kneissl est loin d'être une femme très influente.
Ensuite, j'ai compris le sens de cette action. Je crois que si les compagnies russes ou le Kremlin sont prêtes à la payer un demi-milliard par an, c'est qu'ils payent pour faire passer un message, qui est le suivant. Même si vous n'êtes qu'une petite pointure politique, si vous vous pliez à nos règles, vous serez récompensé.
You will be rewarded.
Mais le FPE est dans la tourmente depuis un scandale de corruption impliquant justement une fausse oligarque russe. Et ce parti pourrait bien tenir la Russie plus à distance à l'avenir.
La Macédoine du Nord, au cœur de l'Europe, est une terre de miel et des passionnés veulent défendre l'abeille locale menacée par l'introduction d'espèces étrangères. C'est un reportage de Louis Seyé aux côtés de deux apiculteurs de la région de Pélagonie qui défendent la cause des abeilles avec le soutien de l'association Slow Food Macedonia.
Voilà notre abeille autochtone de Macédoine, Apis mellifera macedonica. Cette sous-espèce s'est adaptée à son environnement au cours de millions d'années d'évolution. Ses caractéristiques, c'est justement sa capacité à survivre à des hivers très rigoureux et des étés secs, sont beaucoup de nectar disponible.
Des pattes plus allongées, des ailes plus courtes et une tendance réduite à former de nouveaux essaims, Apis mellifera macedonica cultive ses différences avec ses cousines européennes. Réputée farouche, l'abeille de Macédoine rayonne au cœur des Balkans, autour du pays qui lui donne son nom. À 32 ans, Nacho Jovcetski récolte un miel naturel particulièrement savoureux grâce à ses 400 ruches posées à Dihovo, un petit village de fermiers situé au pied des montagnes sauvages du sud-ouest du pays.
D'un point de vue écologique, notre région permet de faire de très bons miels biologiques, des miels polyfloraux de grande qualité, car il y a une grande diversité de fleurs et de plantes qui fleurissent en ce moment. Notre région est encore très naturelle, l'agriculture intensive n'y est pas développée.
Ce miel de fleurs sauvages, crémeux à souhait, c'est un incontournable du petit-déjeuner en Macédoine du Nord. Rares sont les Macédoniens qui partent au travail sans s'être délectés de leur cuillère quotidienne. Nikolce Nikolovski préside l'association Slow Food Macedonia.
La Macédoine a une longue tradition d'apiculture. L'apiculture fait partie des activités quotidiennes des fermes et de la campagne, parce que l'abeille produit du miel, l'un des rares produits sucrés disponibles qui est consommé chaque jour. Le miel a toujours été l'un des éléments phares de la médecine traditionnelle. Il est encore utilisé comme un remède. Beaucoup d'objets anciens témoignent de nos liens culturels avec l'apiculture. Mais surtout, cette tradition d'apiculture est encore bien vivante aujourd'hui.
La Macédoine du Nord, paradis d'abeilles, c'est ce qu'a magnifiquement rappelé le film Honeyland, sorti en salle il y a 2 ans. En comptant la vie de Hatice Muratova, une apicultrice qui récolte son miel selon des traditions ancestrales, ce succès cinématographique mondial est devenu le meilleur ambassadeur de cet état de 2 millions d'habitants. Comme la protagoniste du film, Dicho Dimkovski, un apiculteur de 66 ans, tient à préserver les équilibres de la nature et l'abeille locale.
La loi macédonienne interdit l'importation des abeilles étrangères car notre abeille est protégée. Mais malheureusement, la législation ne suffit pas à contrer la désinformation et le marketing agressif. Et certains apiculteurs se fournissent aujourd'hui avec ces abeilles étrangères qui sont censées produire plus de miel. Mais ces abeilles ne résistent pas aux hivers et meurent, contrairement à notre Apis mellifera macedonica.
Apis mellifera macedonica.
L'association MacBee que Dicho a fondée alerte sur les risques d'hybridation et tente de promouvoir l'abeille locale. Avec son voisin Nacho, ils testent et expérimentent ensemble pour améliorer la sélection des reines et assurer la préservation de la sous-espèce. Un futur sans Apis mellifera macedonica, c'est tout simplement inimaginable pour Nacho, qui a commencé l'apiculture à 16 ans. Passionné par son métier, le jeune apiculteur est le premier en Macédoine du Nord à s'être lancé dans l'apitourisme, mais aussi l'apithérapie, le soin grâce aux produits de la ruche.
Miel, gelée royale, propolis, en tout je récolte déjà 6 produits que m'offrent les abeilles. Et l'air des ruches que j'utilise en apithérapie est le 7e. Les abeilles sont vraiment mon art de vivre. Je leur ai déjà dédié la moitié de ma vie et elles sont vraiment mon quotidien. Elles m'occupent énormément au printemps et en été, mais même en hiver. J'ai beaucoup de choses à préparer et je fais aussi de la pédagogie autour des abeilles. C'est vraiment un art de vivre.
Un dévouement dont les abeilles ont bien besoin. Alors qu'elles participent à la pollinisation de 80% des plantes à fleurs et donc à notre alimentation, les abeilles sont en net déclin en Europe. Notamment en cause, les quelques 5000 pesticides commercialisés sur le continent.
Regarde ! De toutes les provinces soumises par César, la Gaule est la plus indisciplinée. De tous les villages de la Gaule, celui-ci est le plus dangereux. N'y pénètre jamais ! Ce sont des brutes sanguinaires, des monstres abominables, des sauvages terrifiants qui ne connaissent aucun sentiment humain. Ce sont des bêtes.
Avant de prendre ses quartiers d'été, Accent d'Europe vous emmène dans l'est de la France, en Moselle, près des frontières belges, luxembourgeoises et allemandes, au château de Malbrouck pour visiter Astérix l'Européen en compagnie de Barbara Hess. Elle est responsable de cette exposition à voir jusqu'au 28 novembre 2021. Le petit héros gaulois est quasiment contemporain du traité de Rome. Tous les deux sont nés à la fin des années 50, 1959 pour l'un, 1957 pour l'autre. Et si Astérix et Obélix ont visité toute l'Europe, les albums d'Uderzo et Goscinny regorgent aussi de références à la construction européenne.
Je vous ai compris !
À propos de quoi ?
De manière générale, je vous ai compris.
Il y a un album, par exemple, qui s'ouvre par une visite de tous les grands chefs européens, les irréductibles européens. Ça peut faire penser à la préfiguration du premier Parlement européen, par exemple. C'est Astérix et les Helvètes. Et, par exemple, Astérix aux Jeux Olympiques, quand les Gaulois veulent absolument concourir, il faut qu'ils montrent qu'ils appartiennent aux Romains. Et donc, il y a toute une série de juges comme ça qui discutent de la recevabilité de la candidature des Gaulois. Donc là aussi, on est en 68, on est en plein processus d'élargissement de l'Union et on peut s'imaginer là aussi que les membres de l'Union examinent aussi les candidatures des potentiels entrants. Donc voilà un peu le genre de référence historique qu'on peut présenter. Après, dans les albums d'Astérix, il y a des références culturelles qui sont omniprésentes. Et on a essayé là aussi d'exhumer ce qui pouvait faire partie du patrimoine culturel européen, tant du point de vue de l'art, de la littérature, etc.
Qu'allons-nous faire ?
Danser ?
Que la fête commence !
On commence !
Les aventures d'Astérix, ce sont 38 albums parus. Le 39e sortira le 21 octobre prochain. Astérix et le Griffon, qui emmènera l'irréductible Gaulois sur la trace des légendes celtiques. Mais la première rencontre d'Astérix et Obélix avec l'Europe, c'est en 1961 pour leur troisième aventure, d'abord publiée dans le magazine Pilote. L'album sortira en 1963 et ils se rendent en Allemagne.
Alors, ils commencent par aller chez Lego. Donc c'est pas là non plus, c'est pas un hasard. Hein. Si le premier voyage à l'extérieur de la Gaule est réservé aux Goths, ils vont chez les Helvètes, ils vont chez les Grecs, ils vont chez les Pictes. Évidemment, le pays dans lequel ils seront le plus, c'est l'Italie. Hein. Ils y vont à plusieurs reprises. Ils vont également, dans la Grande Traversée, ils vont faire la connaissance des peuples du Nord, mais aussi après du Nouveau Monde. Ils vont également en Hispanie et chez les Bretons, bien sûr. Ils font un beau petit tour d'Europe. On se rend très rapidement compte que le voyage, c'est le moteur des aventures. Ils sont quasiment en voyage dans un album sur deux. C'est quasiment un rituel. Et à chacun de leurs voyages, ils rentrent enrichis.
Ça manque de sangliers et de cervoises ici.
Bon, l'appétit vient en mangeant.
La cervoise d'Astérix.
Les aventures d'Astérix le Gaulois sont l'œuvre d'Albert Uderzo et de René Goscinny, un dessinateur fils d'immigrés italiens et un scénariste d'origine juive polonaise qui vont donner naissance à l'un des plus grands mythes culturels français de l'après-guerre en jouant des clichés tous azimuts.
Ils vont avoir recours à des clichés qui sont éminemment répandus. pour justement qu'un maximum de gens se reconnaissent dans ces clichés. C'est quasiment de la caricature du voisin. Le Corse, il aime la sieste, il aime pas qu'on parle de sa famille.
Il y a souvent du brouillard comme ça en Bretagne ?
Oh non ! Seulement quand il ne pleut pas.
L'anglais, enfin le breton, il est hors de question de rater l'heure du thé, même lorsqu'on est en train de se battre. Donc on est parti vraiment sur la façon dont Astérix nous amenait à découvrir l'autre, et c'est toujours par l'intermédiaire de l'humour et des clichés qui sont très répandus. Et c'est ce qui explique aussi le succès des aventures d'Astérix dans les autres pays, puisque en France, évidemment, c'est un des héros les plus connus, mais la deuxième patrie d'Astérix, c'est l'Allemagne. Et vraiment, c'est un carton européen, Astérix.
Alors, on y va !
Obélix ! Tu n'es pas chez toi ici !
Justement ! Les touristes d'abord !
Un carton européen qui permet aux traducteurs de toute l'Europe de montrer leur génie, parce qu'Astérix et Obélix s'appellent comme ça partout en Europe, mais les autres personnages ont tous été rebaptisés. Le petit chien Idéfix s'appelle Dogmatix en anglais, le barde Assurance Tourix Cacophonix en portugais, et le druide Panoramix, c'est Miraculix en allemand et Getafix en anglais. L'exposition Astérix l'Européen, c'est jusqu'au 28 novembre au château de Malbrouck en Moselle, et pour les Parisiens, il y a la grande rétrospective Uderzo comme une potion magique à voir au musée Mayol jusqu'au 30 septembre.
Je suis venu, j'ai vu, et je n'en crois pas mes yeux.
Il y a bien longtemps, dans un royaume enchanté, une petite ligne de basse bien ronde.
Musique.
La musique avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Les Suisses de l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp au programme.
Voilà un projet et une musique bien difficile à faire rentrer dans une case, et pas seulement à cause de l'effectif très nombreux de l'orchestre tout-puissant. Marcel Duchamp, c'est le nom de cet ensemble de 12 musiciens fondé en 2006 par le Suisse Vincent Berthollet. Avec son nom en forme de double clin d'œil à quelques grands groupes traditionnels africains et au célèbre plasticien pape du ready-made, l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp a déjà publié 4 albums où se croisent free jazz, rock, fanfare, high life et musique expérimentale. Le 5e vient de paraître, il s'intitule We're Okay But We're Lost Anyway, et c'est une merveilleuse pochette surprise où chacun trouvera forcément son bonheur.
We need to face that.
L'Accent d'Europe vous retrouve le 30 août. En attendant, vous pourrez réécouter une sélection d'émissions pendant tout l'été. Bonnes vacances si vous en prenez. À la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast d'Accent d'Europe sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.